Et c'est marquant. Jacques Lavergne, bonjour. Qu'est-ce qu'un essai ? Bien, essai est une œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers, parfois polémiques ou partisans, mais pas obligatoirement. C'est un texte littéraire qui aborde des domaines variés, historiques, scientifiques, philosophiques, économiques, politiques, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre patrimoine, à nous les Français, et singulièrement de nos monuments historiques et de nos musées. Et comme vous ne l'ignorez pas, ils sont en souffrance. Alors, l'actualité récente en porte témoignage. Et puis, vous avez vu aussi toutes ces démissions, ces nominations de patrons de grands établissements culturels. Il n'y a pas que sur le territoire national. Hein. Il y en a beaucoup de moyens et de petits, mais on ne parle que des grands. À lire aussi la très intéressante chronique de Michel Guérin dans Le Monde, intitulée « Pourquoi les grands patrons culturels deviennent fous ?» Ça a l'air d'être un monde apparemment impitoyable. Mais tout cela est hélas loin d'être nouveau. Et pour l'illustrer, nous allons nous intéresser à l'essai de Marie-Vonne de Saint-Pulgent, que l'on trouve chez Gallimard dans la collection Trac, qui vient de sortir en janvier 2026, c'est tout frais. 59 pages et 3,90 €, c'est le principe de cette collection. Alors, qui est Marie-Vonne de Saint-Pulgent ? Elle n'est pas très connue du grand public, vous allez le voir, mais elle est particulièrement qualifiée pour traiter du sujet. Marie-Vonne de Saint-Pulgent est une haute fonctionnaire, elle est essayiste, bien sûr, puisqu'on parle de son essai, et elle est également musicienne, ce qui n'est pas toujours très fréquent dans ce monde-là. Alors, elle a étudié à l'Institut d'études politiques de Paris, elle a fait l'ENA, promotion Guernica, elle est titulaire également d'une maîtrise ès-lettres, et elle a poursuivi parallèlement une formation musicale, premier prix de piano, s'il vous plaît, hein, au Conservatoire de Paris, auteur d'ouvrages sur la musique et l'opéra, et professeur associé de musique et musicologie à l'Université Paris 4 Sorbonne. Et puis, à la sortie de l'ENA, elle intègre le tribunal administratif de Paris, elle rejoint ensuite le Conseil d'État, où elle va être maître des requêtes, puis commissaire du gouvernement. Bref, elle a beaucoup tourné dans cette haute juridiction, comme l'on dit, et puis directrice générale du patrimoine au ministère de la Culture et directrice de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en parallèle à compter de 1994. Elle également préside le comité d'histoire du ministère de la Culture. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui a non seulement un bagage mais aussi une expérience dans le domaine. Alors son éditeur, Le Trac Gallimard, donc collection, hein, qui accueille de brefs essais d'actualité, textes de femmes, d'hommes de lettres, portant leur libre éclairage sur notre actualité sociale et politique, et témoignant de la sorte de leur commun désir de s'engager par la compréhension de ce qui se joue. Alors c'est proposé à un prix très accessible, hein, je vous l'ai dit, 3,90 €, à peu près tout le monde peut les mettre. Sa vocation à circuler, puis à enrichir bien sûr le débat public. Alors, lecture de la quatrième de couverture, qu'elle commence par une citation, je vous la livre, une citation de Marie-Vonne de Saint-Pulgent. « La crise du patrimoine est systémique et nécessite un examen de conscience de la part de tous les acteurs. » Voilà cette citation mise en exergue. Alors, pour ce qui est de la quatrième, la voici. « Que se passe-t-il avec notre patrimoine ? La décennie en cours voit une recrudescence des sinistres dans nos monuments et nos musées, dont les plus récents, affectant des lieux emblématiques, douchent l'optimisme des pouvoirs publics, créent un sentiment de honte et suscitent un vent de colère dans l'opinion. » Les mots de négligence ou d'incompétence viennent à l'esprit devant cette suite d'altérations désolantes. Passé le temps de l'émotion, faut-il incriminer un sous-investissement chronique ? Des arbitrages contestables, la marque du sourd-tourisme, des injonctions contradictoires qui brouillent la politique publique et masquent les vraies responsabilités. La charge patrimoniale est-elle devenue exorbitante à l'échelle des budgets mobilisables ? Ce tract fait un point très attendu sur les causalités engagées dans cet état de choses et il ouvre des perspectives. Car si notre patrimoine est bien l'or noir de la France, comme les chiffres du tourisme l'attestent, il s'agit de réagir sans délai et trouver des solutions pour affronter, en prévoyance comme en saine gestion, ce mur d'investissement qui conditionne l'entretien, la sauvegarde et le bénéfice pour l'économie, les pratiques culturelles et la conscience nationale. Voilà, table des matières, il n'y en a pas, ce qui est tout à fait classique sur un essai aussi de cette taille. Alors, lecture de quelques passages et on va commencer par la page 17. Le livre est scandé par différents paragraphes. Il n'y a pas de chapitre, mais il y a des paragraphes très nettement individualisés. Et nous allons lire les premières lignes de celui qui s'intitule « Les nouveaux dangers du changement climatique ». La dégradation accélérée de l'aile François Ier de Chambord est en partie due aux mouvements successifs de dilatation et de contractation du sous-sol argileux du château, causé par les alternances de pluies violentes et de périodes d'intense sécheresse de ces dernières décennies. En 1944 déjà, la baisse de la nappe phréatique des berges de la Seine, entraînant la désagrégation des fondations sur pilotis de la nef du Grand Palais, était la cause principale de sa progressive dislocation, révélée par la chute d'un boulon de sa verrière pendant une exposition. La réparation des désordres a nécessité 100 millions d'euros de travaux et la fermeture de la nef jusqu'en 2007, puis une nouvelle fermeture de 4 ans, 2021-2025, et 400 autres millions pour restaurer la totalité du palais à temps pour y organiser les épreuves d'escrime et de sport de combat pendant les JO de Paris. La fréquence et l'intensité accrue des épisodes climatiques violents contribue aussi à augmenter les sinistres accidentels dans les monuments historiques. Donc voilà pour cette première lecture. Donc vous voyez que même le changement climatique s'en mêle. C'est un milieu, la culture, qui n'avait pas vraiment besoin de ça. D'ailleurs, aucun milieu, quel qu'il soit, où l'homme est, n'a besoin du changement climatique. Malheureusement, il est là et nous allons le subir. Deuxième lecture. Beaucoup plus loin, page 44, « Le patrimoine et notre or noir », c'est le titre du petit paragraphe. « Pour le ministère du Budget, le patrimoine est une charge pour les finances publiques, une dépense somptuaire qu'il faut réduire en période de disette budgétaire, comme le prévoit le projet de budget pour 2026, en lui infligeant une baisse de crédit deux fois plus importante que celle de l'ensemble du ministère de la Culture. » En 1996, un inspecteur général des finances entreprit de vérifier l'affirmation de Grégoire, abbé Grégoire qui pensait, en l'an 2 de la République, alors c'était en août 1794, lorsqu'il appelait la Convention à stopper les destructions révolutionnaires, ouvrez les guillemets, les arènes de Nîmes et le pont du Gard ont peut-être plus rapporté à la France qu'ils avaient coûté aux Romains, car c'est là ce que les étrangers viennent admirer. Après avoir observé que 70% des visiteurs du musée et 87% des visiteurs de monuments sont des touristes, que la France est au premier rang des destinations touristiques mondiales, que le secteur du tourisme est le moteur de notre croissance économique et que sa balance commerciale est positive, il a fait l'hypothèse que l'attrait pour nos richesses patrimoniales et muséales expliquait 20% de son chiffre d'affaires. Car si ces richesses n'étaient pas présentes en France ou se dégradaient sensiblement, les touristes iraient ailleurs, qu'ils soient français ou étrangers. On trouve confirmation de ce raisonnement dans la fréquentation de Notre-Dame de Paris qui a augmenté de 30% après sa restauration exemplaire. L'expert financier démontrait alors que le patrimoine rapportait en 1996 trois fois plus en impôts et cotisations sociales qu'il ne coûtait en crédit public. Et plus loin, on peut lire, et je tenais à vous citer cette phrase, la voici. Le patrimoine rapporte donc 2,5 fois plus en impôts et taxes sur les recettes du tourisme qu'il n'en coûte aux finances publiques. Alors, vous comprenez bien que c'est un point important, cette dernière phrase que je viens de citer, parce que ce n'est pas tout à fait ce que l'on entend de la part des pouvoirs publics qui considèrent en tout domaine, et que ce soit au niveau national ou au niveau municipal d'ailleurs, on peut le vérifier, par exemple dans notre bonne ville de Toulouse d'où nous émettons, que la culture est souvent une variable d'ajustement budgétaire. C'est tout à fait scandaleux et tout à fait inutile au niveau des finances publiques. Par contre, on plombe un secteur qui est essentiel pour la population. Conclusion de cet essai, la conclusion de cet essai, on la trouve en page quasiment 53, où Marie-Yvonne de Saint-Pulgent fait des propositions, notamment demander au tourisme de nouvelles ressources pour le patrimoine religieux des communes, pérenniser le financement du patrimoine de l'État en rétablissant des lois de programmation pluriannuelles, dépenser mieux, et elle développe ce qu'elle entend par « dépenser mieux », pour terminer son essai par les phrases suivantes. La crise du patrimoine est donc systémique et nécessite un examen de conscience de la part de tous les acteurs. Les malheurs du Louvre ont choqué l'opinion française et internationale car ils frappent, comme en 2019, l'incendie de Notre-Dame, un monument emblématique de notre histoire et de notre culture. Mais il nécessite des réformes davantage encore, que des sanctions. Alors pourquoi faut-il lire ce petit essai? Que nous apprend-il? Petit mais dense, vous le comprenez. C'est un état des lieux de nos édifices et de nos musées, mais aussi de nos pratiques de conservation, également de direction de certains établissements et de nos pratiques financières. Car bien sûr, là aussi, le besoin d'argent est partout, la pénurie aussi, et tous les besoins sont loin d'être satisfaits. Alors, en ce monde également, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, même si les besoins sont criants. Il y a beaucoup de patrimoine qui n'est pas forcément un grand patrimoine très connu du public, mais pour autant qui a une importance culturelle et historique très importante. Bref, ce petit livre atteint parfaitement son objectif, nous faire prendre conscience que notre patrimoine a besoin de nous tous, qu'il représente notre passé, dont nos racines, celles qui nous rattachent à notre histoire, nous permettent de nous situer dans ce monde. Il affiche nos valeurs, dont notre culture est une part essentielle, on ne le dira jamais assez. Cette culture qui, comme l'a écrit Malraux, et je le cite, « fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers ». C'était Essai marquant par Jacques Lavergne, avec à la réalisation Sacha Gauchy, que je remercie. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. Bonne lecture à toutes et à tous.